culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour chère auditrice, cher auditeur, tu écoutes le culte espoir et je me réjouis tellement d'être là avec toi pour vivre ce temps de partage, de méditation, de louange à notre Dieu. Je suis aussi heureuse de retrouver mes amis. Bonjour Brian, Amandine, Juliana, vous allez bien ?
Ouais.
Oui, bonjour, je Amina. Te remercie.
Alors tu te demandes peut-être quel est le thème d'aujourd'hui. Alors je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question. Quel est le projet de Dieu pour ma vie? Si oui, alors rassure-toi, je ne pense pas que t'es seule. En tout cas, personnellement, je me suis déjà posé cette question moi-même. Et je pense qu'ici, dans le studio, je ne suis pas seule non plus. Vous confirmez?
Clairement.
Oui, tout à fait.
Et oui, quand on aime Dieu, on s'intéresse à ce que Dieu pense et à ce que Dieu veut pour nous. C'est normal. C'est pour cette raison que nous avons décidé donc de vivre ce culte spécial et nous allons vous proposer une réflexion autour de ce thème avec des témoignages de personnes d'hier, c'est-à-dire des personnes des temps bibliques et des témoignages de personnes d'aujourd'hui, c'est-à-dire nos expériences personnelles. Et tout cela ponctué de versets bibliques, de chants, entre autres. Alors pour commencer, je t'invite à entrer dans la louange avec le chant « Que mes regards » de Sébastien Damré et Jimmy Lai.
Sauveur, maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi, que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière le jour et la nuit. Sainte sagesse, parole de Dieu, fais que mon cœur s'abandonne à tes voeux, qu'il me conduise au plus près de mon Père, puisqu'être fils de Dieu m'est si cher. Que rien sur terre, que nul ici-bas, n'offre à mon âme autre chose que toi. Tu es le seul à pouvoir me combler, mon héritage, ma joie et ma paix. Oh, oh. Clarté divine, victoire infinie, que ce soit toi qui soutienne ma vie, sur ta lumière attendant ton retour, je veux garder mes yeux chaque jour. Sur ta lumière attendant ton retour, je veux garder mes yeux chaque jour.
Voici une promesse qui est une magnifique parole de Dieu. J'aimerais te la partager. C'est dans le livre de Jérémie, au chapitre 29 et le verset 11, où il est dit « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait un bien fou ce verset. Et comme tu le disais tout à l'heure, Romina, on se pose souvent la question de quel est le plan, quel est le projet de Dieu pour nous. Mais voici une promesse de sa part. Même si l'on ne sait pas toujours quelle est la portée de ce plan pour nous, nous savons que ce sera un plan de bonheur, car il les a formés pour toi, il les a formés pour moi. Et Juliana, il me semble qu'il y a des personnages bibliques en lien avec ces fameux projets de Dieu dont tu voudrais nous parler.
Exactement, Brian. Ces trois histoires qui m'ont particulièrement interpellée se trouvent dans la formation « Devenir inébranlable » du Top Chrétien. Cette formation est proposée par Stéphanie Rieder-Poirier en 12 vidéos. Et j'espère ici vous donner envie de la faire en entier. Il ne vous faudra qu'une dizaine de minutes par jour, mais je vous assure que ça va vous rebooster dans votre foi et votre relation avec Dieu. La première histoire est celle de Josué lors de la prise de Jéricho. Vous la connaissez certainement. Je vous invite à la lire avec moi dans Josué 6, les versets 1 à 5.
Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué : Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi.
Stéphanie Rieder nous partage 3 clés qui ont été décisives pour que le plan de Dieu pour Josué et le peuple d'Israël se réalise. La première clé, Josué ne devait pas se fier à ce qu'il voyait. Bah oui, parce que qu'est-ce que Josué voyait devant lui? Ni plus ni moins que la ville de Jéricho, totalement fermée et une énorme muraille. J'imagine que ça ne devait pas être si évident alors de croire qu'il pourra entrer dans la ville et la conquérir au premier abord. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle dans ce passage. Aucune réaction de Josué. Pas un « mais t'es sûr de toi là, Dieu ?» Rien de tout ça. Mais Josué s'exécute. Il donne tout de suite les ordres au sacrificateur. Et c'est parti. Il a obéi car il a cru que ce que Dieu avait promis, eh ben, il était capable de le faire. Cette muraille, elle peut représenter ces obstacles qu'il reste à surmonter avant de voir les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies. Et là, ça me pose question. Est-ce que je doute des projets de Dieu pour moi dès que je vois un obstacle sur ma route? Ou est-ce que je continue à croire que Dieu peut accomplir ses promesses, peu importe les obstacles que je vois? La deuxième clé, Josué ne devait pas se borner à sa façon de penser. Bah oui, Josué, c'est un guerrier. Et pour conquérir une ville, eh ben, un guerrier, ben, ça s'attend à aller combattre. Et là, Dieu lui propose un truc complètement farfelu. Ils feront le tour de la ville avec l'Arche de l'Alliance pendant 7 jours. Et il donne des instructions assez détaillées d'ailleurs. Et ensuite, c'est Dieu lui-même qui leur livrera la ville une fois qu'ils auront obéi. Donc, ici la clé, c'est l'obéissance aux instructions de Dieu pour la réalisation de la promesse. Et malgré tout, on voit que Josué obéit tout simplement. Et là, ça m'interpelle encore. Est-ce que je sais obéir à Dieu tout de suite? Quand, eh ben, ce qu'il me propose, c'est complètement à l'opposé de ce que je pensais, de ce que j'imaginais. La troisième clé, c'est que Josué et le peuple ne devaient pas se décourager. Ils ne devaient pas se décourager quand ils ne voyaient pas de changement. Ben oui, si on se met à la place du peuple, on pourrait se dire « Si j'obéis à Dieu, ben il y a quelque chose qui va se passer pour m'encourager à continuer à obéir, quoi. » Eh ben non.
Le peuple fait exactement ce que Dieu demande, et pourtant, il ne voit pas une seule pierre qui tombe de la muraille. Au bout de quelques jours, sans que rien ne se passe, ils auraient pu se dire « Non mais, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ce qu'on fait là ? On va vraiment pouvoir conquérir cette ville alors qu'on tourne autour depuis des jours et qu'il n'y a rien qui se passe ?» Mais encore une fois, pas une trace de plainte ou de doute dans le texte. On voit qu'ils ont tenu bon et ils ont obéi jusqu'au bout. Alors, ils ont pu voir la promesse de Dieu se réaliser et la muraille s'écrouler. Voici ce que dit Stéphanie Rieder pour nous pousser à ne pas abandonner quand ça ne bouge pas comme on le voudrait.
Nous sommes peut-être à un tour de voir la muraille tomber et le miraculeux entrer dans nos vies.
Alors, est-ce que j'ose lâcher prise sur mes propres plans, mes propres façons de penser, pour laisser Dieu accomplir ses plans dans ma vie ? Dans Ésaïe 55, versets 8 et 9.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées.
Pour ceux qui sont fatigués, venez ressourcez-vous dans mon amour. Pour ceux qui sont épuisés, je vous attends. Tu m'avais perdu de vue, concentré sur toutes les vagues autour. Tu n'avais pas entendu, mais je t'appelle, viens vers moi. Imaginez, est-ce que tu peux ce que tu pourrais imaginer. So be still, know that I am God. So be still, know that I am God. I'm calling you to take a break, come sit down.
Quand je pense au projet de Dieu dans ma vie, ça résonne un tout petit peu comme l'appel qu'a eu Moïse pour aller en Égypte. Dans le livre d'Exode, au chapitre 3 et le verset 10, il est dit « Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. » Alors, pour vous remettre rapidement dans le contexte, hein, Moïse, dont le nom signifie « fut tiré de l'eau », a été, comme son nom l'indique, un bébé recueilli au bord du Nil. Issu de parents israélites adoptés par la princesse, Moïse reçoit une double éducation. Devenu adulte, Moïse voit, lors des travaux d'esclavage, un Égyptien frapper un Israélite. Il décide d'agir et de tuer l'Égyptien. Moïse voit bien que son action n'est pas bonne et cache l'Égyptien. Mais la supercherie ne fonctionne absolument pas. Il est démasqué. Et les témoins israélites n'ont pas confiance en lui. Et si le roi l'apprend, il est sûr d'avoir des ennuis. Du coup, il fuit et toutes ses possibilités d'évolution au sein de la famille royale s'envolent aussi. Et là, quelques années plus tard, quelques longues années plus tard, alors que Moïse avait retrouvé sa zone de confort avec ses moutons, avec sa petite famille, Dieu lui dit de retourner là où il a échoué, où il a fui. Incroyable, non? Assez dur à entendre, je trouve. Moïse répond à Dieu en disant « Moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays ?» Le mot est fort, vous ne trouvez pas? « Suis-je capable ?» Face à cette remise en question, Dieu lui réplique « Je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie. » Et là, toute la dynamique change. Alors certes, il revient dans un lieu hostile, un lieu de mauvais souvenirs, mais il aura un allié de taille, il aura Dieu. Et cette fois-ci, on reprend tout le projet à la façon de Dieu, même si cela doit comporter des phases où l'on ne se sent pas capable, où l'on ne se sent plus capable. Pour Moïse, Dieu dit qu'il essuiera des refus de la part du roi d'Égypte, hein. Et oui, ce ne sera pas simple, il devra aussi expliquer auprès des anciens du peuple d'Israël, ainsi qu'au peuple lui-même, qui est la personne qui l'envoie, Dieu en l'occurrence, sachant que il n'est pas très éloquent et il n'a surtout pas envie de revenir en Égypte. Cette mission aura au moins une double portée, évidemment de libérer le peuple de l'esclavage, de l'oppression, mais aussi, je crois, de libérer et de restaurer Moïse lui-même, qui avait sûrement une basse estime de lui. Dieu l'appelle par son nom. Il lui instaure sa place. Moïse est considéré. Alors avançons quelques années plus tard, dans les années 2010. Pour ma part, on peut dire que mon parcours scolaire est assez atypique. Alors je pars pour faire des études, loin de ma famille, et j'ai une petite pression qui commence à s'installer. Le temps passe et malheureusement, j'échoue dans mon cursus. Moment très difficile. Je dois affronter les regards des autres, sans compter l'estime que j'ai envers moi-même, qui se trouve à peu près au niveau de la mer. Et quelques mois après, je me trouve dans un travail en lien avec mes études et je me calibre dans une zone de confort, où je ne bouge plus trop, et cela pendant quelques années. De la même façon, lors de mon expérience professionnelle, Dieu m'inspire à entreprendre des formations, des validations d'acquis en lien avec le poste que je tiens. J'avoue que les premières questions étaient est-ce que je vais encore décevoir? Est-ce que je vais prendre le risque d'échouer? Est-ce que j'en suis vraiment capable? Puis au bout d'un moment, je crois que Dieu il me dit « on va le faire à ma manière ». Donc brillant, lâche prise. Et je crois que c'est ce que j'ai fait. Et ne croyez pas qu'après cette acceptation-là, tout est allé comme sur des roulettes. Démarche administrative, temps à me libérer, difficulté à me motiver, découragement, rendez-vous avec les fondateurs. Enfin bref, c'était loin d'être facile. Mais avec le recul, et même si je n'ai pas toujours tout compris, Dieu a été dans ce projet pour me guider dans une voie qui me convient bien plus que celle que j'avais choisie au départ. Alors attention, je suis conscient que la comparaison que je fais ne se situe pas au même niveau que la mission de Moïse, mais je crois qu'au fond, ces questionnements qu'on peut tous avoir, suis-je capable ? Suis-je prêt à retenter là où j'ai échoué ? Suis-je prêt à faire confiance, à lâcher prise ? On l'a tous un jour ou l'autre. Et je crois intimement que l'important dans ces questionnements n'est pas vraiment là où tu vas aller, mais avec qui. Dieu dit qu'il sera avec toi si tu l'acceptes dans ta vie. Prépare-toi à sortir de ta zone de confort, mais tu verras, ça en vaut la peine.
Je suis prosterné, ton cœur m'attire à tes pieds. De ta voix, tu m'appelles. Toute ma vie, je soumets à ton esprit. À jamais de ta voix, tu m'appelles. Ô Père, vois mon cœur ouvert, entends ma prière. Montre-moi la voie. Conduis-moi plus près de toi, sois le roi de ma vie. Mon espoir est en toi, tu es la raison de ma foi. Envoie-moi. Tu me vois dans le désert, tu es là. De ta voix, tu m'appelles. Ô Père, c'est là mon désir, je veux te
Alors la deuxième histoire que j'aimerais vous partager, c'est celle d'Abraham. On retrouve la promesse que Dieu a faite à Abraham dans Genèse 12, les versets 1 à 4.
L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charan.
Là encore, Dieu demande à Abraham de faire quelque chose d'assez fou. De tout quitter, de partir de là où il a toujours grandi, la maison de son père, et là où il a tous ses biens, pour aller dans un endroit totalement inconnu où il n'a rien du tout. Et on le voit, comme Josué, Abraham obéit tout simplement à Dieu. Pas de question, pas de doute, mentionné en tout cas dans la Bible. Sauf que, 25 ans après, Abraham voit bien que la promesse n'est toujours pas accomplie. Il essaye de trouver sa propre solution, mais Dieu le rassure et lui rappelle sa promesse dans Genèse 15, les versets 3 à 5.
Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. »
C'est très intéressant de voir comment Dieu s'y prend avec Abraham. D'abord, il le fait sortir dehors. Ensuite, il le fait regarder au ciel comme pour lui dire « Sors de tes propres schémas de pensée et change de perspective. Regarde toutes ces étoiles que j'ai créées. Tu ne peux pas les compter. Eh bien, si j'ai créé toutes ces étoiles, de la même manière, je peux aussi créer une postérité pour toi, tout aussi nombreuse. » Et là, Abraham reprend confiance et se remet en marche. Est-ce que dans ma vie, je crois que ce Dieu créateur est toujours le même et qu'il peut toujours amener la lumière au milieu de mes ténèbres, l'ordre au milieu de mon chaos, même quand les choses que je vois me poussent à douter. Dans Romains 4, les versets 18 à 22, voici ce qui est dit d'Abraham, celui qu'on appelle aujourd'hui le père de la foi.
Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice.
Si Abraham avait simplement regardé les faits naturels, la réalité était qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais il a regardé à Dieu, et il s'est rappelé que Dieu est celui qui peut tout faire, même l'impossible. J'aime beaucoup ce que nous dit Stéphanie Rieder.
Pour entrer dans notre destinée, ça se passe une journée à la fois, une année à la fois, une saison à la fois. Ce n'est pas la saison qui devrait dicter notre foi, mais c'est la foi à travers les saisons qui dicte comment on entre dans cet appel pour notre vie dans l'étape suivante de notre destinée.
C'est vrai que nous, les êtres humains, nous sommes des éternels insatisfaits. À chaque fois qu'on atteint quelque chose, on veut tout de suite autre chose. Et c'est très rare qu'on apprécie la saison dans laquelle on est actuellement. Par exemple, quand on est célibataire, on veut se marier. Quand on est marié, on veut une maison. Ensuite, on veut des enfants. Ensuite, on veut qu'ils soient autonomes. Bref, on ne s'arrête jamais. Et on ne se rend pas compte que, comme dans la nature, chaque saison compte et est importante dans le processus pour que le plan de Dieu s'accomplisse pour nos vies. Parce que oui, pour Dieu, ce qui est encore plus important que le but, c'est bien le processus par lequel il veut nous faire grandir dans la foi, nous apprendre à lui faire confiance et changer notre caractère pour que nous soyons fin prêts lors de l'accomplissement de la promesse.
Je sais que ta parole domine les cieux et la terre. Elle ne revient pas à toi sans avoir eu son effet. C'est avec le cœur d'un enfant que je viens à toi. Et je resterai là où je peux reconnaître ta voix.
Quand j'étais très jeune, il y a un verset de la Bible qui m'a beaucoup marqué et qui m'a accompagné toutes ces années, c'est Jean 14, 16. C'est Jésus qui parle et qui dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur qui soit éternellement avec vous. » J'aime dire que c'est un verset que j'ai reçu de Dieu comme un cadeau et qui a ancré chez moi la conviction que un des projets de Dieu c'est d'être éternellement à mes côtés, à travers tout ce que je traverse, jusqu'au jour où je vivrai éternellement avec lui, libérée de tout ce mal, de toute cette souffrance sur la terre. Comme chacun d'entre nous, j'ai eu dans ma vie des blessures, des souffrances, et notamment quand j'avais 13 et 14 ans, j'ai traversé un traumatisme qui a eu un impact énorme sur ma vie, un impact au moment même, mais aussi pendant de nombreuses années, jusqu'à ma vie d'adulte. Lorsque l'on traverse ce genre de souffrance, c'est assez légitime de se demander « Mais c'est ça le plan de Dieu pour ma vie ?» Et il y a cette fameuse question qui arrive alors « pourquoi ? Pourquoi ça ? Pourquoi moi ? Et ça pourrait être l'objet d'un culte en lui-même, c'est une vaste problématique, mais dans mon propre vécu du moins, j'ai laissé la question « pourquoi ?» de côté. Je ne comprends pas tout. Et je me suis tournée vers la question « pour ?» plus loin, « quoi ?» Parce que j'ai vu, j'ai observé, j'ai été témoin de comment Dieu est capable de transformer les souffrances en source de bénédiction pour moi et les autres. Dans mon cas, par exemple, de ce traumatisme dans mon adolescence est née, notamment chez moi, une sensibilité à la souffrance adolescente, quelle qu'elle soit, même pas forcément en lien d'ailleurs avec le type de souffrance que moi j'ai vécue. C'est développer une empathie et le fait que je prenne très au sérieux quand des jeunes ne vont pas bien, parce que je sais, par mon vécu, que ce que l'on vit jeune peut avoir un énorme impact même sur sa vie d'adulte. Et de cette sensibilité est né mon besoin, cette envie qui s'est imposée à moi de monter en tant qu'enseignante au collège un dispositif de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement scolaire. Et ça, pour moi, c'est un des exemples de comment Dieu a fait de ma souffrance une source de bénédiction, une source d'énergie, un élan vers la vie. Et je retrouve cette idée dans la vie de Joseph, un célèbre homme de la Bible, donc tu peux lire l'histoire dans le livre de la Genèse. Joseph a vécu une succession de souffrances, abandonné par ses frères, vendu, victime d'agressions, de calomnies, mis en prison injustement. Et à chaque fois, on voit comment Dieu a été à ses côtés et a transformé ses expériences en victoire. Et je vois la même chose dans tellement de vies autour de moi. Il y a une ou des souffrances suivies d'une sidération, il y a de la colère, il y a une profonde tristesse à différentes échelles et on traverse cela plus ou moins rapidement et ces étapes sont légitimes et font sens. Et puis, il y a ceux ou ces projets qui naissent. Des projets qui nous amènent sur un chemin de vie. Un ou des projets qui nous bénissent et qui bénissent les autres. Et ces projets évoluent, parfois changent au fil de nos expériences, au fil de nos rencontres. Et pas tout projet naît d'un traumatisme, d'une souffrance, heureusement d'ailleurs. Mais je suis persuadée que parce qu'il l'a fait avec Joseph, parce qu'il l'a fait avec moi et d'autres, Dieu est capable dans ta vie, si tu traverses ou as traversé un traumatisme, de transformer un pourquoi destructeur et paralysant en un pourquoi libérateur et qui peut t'emmener sur un chemin de vie. Dieu nous promet un avenir à espérer.
Le soleil se lève toujours, puis il s'endort chaque jour. Les saisons défilent au rythme de la vie. Après la pluie vient le soleil. Il y a un temps pour tout sous le ciel. Il y a un temps pour naître, un temps pour être, un temps pour guérir, puis un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour déchirer, puis un temps pour réparer, un temps pour démolir, un temps pour reconstruire, un temps pour lancer. Un temps pour ramasser, un temps pour danser, pour chanter, pour jouer, pour prendre l'avion et s'envoler. Un temps pour se lamenter, un temps pour pleurer, un temps pour rire sans s'arrêter. Un temps pour crier, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner, un temps pour se sentir aimé, un temps pour se sentir seul, même entouré. Un temps où l'or, c'est le silence, un temps où il faut faire taire. Ce silence, il y a un temps où on va aimer, un temps où l'on ne va plus y arriver, il y a un temps où l'on va blesser, puis vient le temps pour pardonner, un temps pour enterrer, un temps pour dire au revoir à des êtres aimés, un temps où il y a beaucoup de pourquoi, mais pas assez de parce que, un temps pour lever les yeux vers les cieux, un temps pour chercher, un temps pour trouver, un temps où l'on n'arrive plus à vivre, un temps où l'on survit, un temps pour recommencer à voir l'avenir, un temps pour recommencer à vivre, un temps pour chuchoter, un temps pour crier, un temps pour supplier, puis un temps pour remercier, un temps pour s'écrouler, un temps pour rester couché, un temps pour se reposer, puis un temps pour se relever. Un temps pour regarder à l'horizon et un temps pour rentrer à la maison. Il y a un temps pour garder, un temps pour partager. Il y a un temps pour courir, pour s'enfuir, pour marcher, pour s'asseoir et s'arrêter. Un temps pour accélérer, un temps pour freiner et il y a aussi un temps pour accepter. De se soigner, une plaie mal cicatrisée peut finir par nous tuer. Printemps, automne. automne, hiver, été, on regarde les saisons défiler. Il y a un temps pour tout sous le ciel, mais après la pluie vient le soleil. L'hiver prépare les graines pour qu'elles puissent germer l'été. Dieu fait chaque chose belle en son temps, il le promet, alors j'essaye de vivre le présent. En acceptant le mauvais temps, en gardant l'espérance d'un nouveau printemps. Sans brusquer le temps, en se rappelant que la lumière est là constamment. Même dans la nuit, les étoiles scintillent, au-dessus des nuages, il y a le soleil qui brille. Dieu fait chaque chose belle en son temps, il le promet.
La troisième histoire que j'aimerais partager avec vous, c'est celle de Paul. Dans sa formation, Stéphanie Rieder nous dit qu'il y a deux clés pour devenir une personne inébranlable. Premièrement, il faut choisir la joie chaque jour. Deuxièmement, il faut percevoir sa situation comme Dieu la voit. Au mois de mai, Thierry Lenoir nous avait parlé de la joie et avait déjà évoqué l'histoire de Paul. J'aimerais y revenir plus en détail car c'est un exemple très parlant. Lorsque Paul écrit l'épître aux Philippiens, l'épître de la joie, il se trouve en réalité enchaîné en prison, alors qu'il rêvait de faire une grande campagne d'évangélisation à Rome. Visiblement, les choses ne se passaient pas du tout selon ses plans, mais au lieu de se plaindre ou de désespérer, il a choisi d'écrire et d'expérimenter la joie, malgré tout, car il avait compris que Dieu avait un meilleur plan pour lui. Ce qui est dingue, c'est qu'au lieu de seulement prêcher à Rome, Paul s'est alors retrouvé à prêcher dans sa prison à plus de 4000 personnes, dont des gardes influents auprès de César. Dans Philippiens 1, verset 12, il dit
« Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. »
Puis au verset 14, il dit
« Et la plupart des frères dans le Seigneur encouragés par mes liens, en plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. »
En réalité, Dieu avait vraiment un plan mille fois meilleur que celui de Paul, car il a encouragé et encourage encore les chrétiens d'aujourd'hui avec ses écrits, qui représentent la plupart du Nouveau Testament. 1 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens et 1 Timothée. Dans sa prison, il ne devait absolument pas comprendre ce qui se passait et n'imaginait sûrement pas cette fin de l'histoire. Mais il a choisi la joie de lâcher prise et faire confiance à Dieu. Et il a fini par comprendre le pourquoi du comment ensuite. Alors la prochaine chanson que nous aimerions vous faire écouter est en anglais. Le refrain nous dit « Je souris, même si j'ai mal, tu vois, je souris. Je sais que Dieu agit, donc je souris. Même si ça dure depuis un certain temps, je souris. C'est si difficile de lever les yeux quand tu regardes en bas. Je détesterais te voir abandonner maintenant. Tu es tellement plus beau, plus belle quand tu souris. Alors souris.
Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart and it feels like a cold night. Today's a new day. But where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright.
I'll be honest with you.
I almost gave up, but a power that I can't explain fell from heaven like a shower.
When I think how much better I'm gonna be when this is over.
Even though I hurt, see I smile. God is working, so I smile.
you do?
I'll smile.
Come on and
smile. It's so hard to look up when you've been down. Sure would hate to see you give up now.
God's people,
you look so much better when you smile. So smile.
Now every day ain't gonna be perfect, but it still don't mean today don't have purpose. Come on.
Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds, and it's dark in my heart, and it feels like a cold night.
It ain't easy, bud.
Today's a new day, but tell me, where are my blue skies?
Where is that love, y'all?
Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright.
The truth is,
I almost gave up, but a power that I can't explain.
That Holy Ghost power, y'all,
fell from heaven like a shower now.
Now I know we've been hurt, y'all, but still
I smile.
Come on.
Even though I hurt, see, I smile.
Can y'all feel that?
I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while,
still
I smile.
Hallelujah.
I smile. It's so hard to look up when you've been down. Sure would hate to see you give up now.
God's people,
you look so much better.
Whatever you're in right now,
smile, smile for me.
Smile.
Can you just smile for me?
Kia Warren nous dit: la joie est une conviction profonde que Dieu est au contrôle de toutes les situations et tous les détails de ma vie. C'est une assurance qui me permet de croire qu'ultimement, tout va bien se terminer. La joie est un choix déterminé qui nous donne la force de rendre gloire à Dieu en toutes circonstances.
Ça me parle beaucoup ce que tu disais par rapport à Paul, qui est une personne vraiment impressionnante. Et ce qu'il dit dans sa lettre aux Philippiens me touche vraiment depuis des années, notamment le texte qui se trouve dans le chapitre 4, versets 12 à 13. « Je sais vivre dans la pauvreté. » Je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me renforce. Donc, comme disait Juliana, là, Paul est en prison quand il écrit cela. Il ne se plaint pas, il reste ancré en Jésus, même s'il vit des choses qui ne faisaient pas forcément partie de son plan personnel. Et je me demande si, dans la même situation, je serais capable de penser comme lui. Je sais pas vous.
Bah, je t'avoue, Romina, qu'en lisant ce passage, moi, je me rends pas vraiment compte de la portée que ça a dû être.
C'est sûr.
On pourrait le qualifier de surhomme, hein, mais non, non, non. Il dédie toute sa force à Dieu. Il est ni plus ni moins qu'un humain comme toi, comme moi, comme nous. Alors je l'imagine, dans le froid, probablement battu. J'imagine que la nourriture ne doit pas être du 5 étoiles, hein. Hygiène plus que douteuse, enfermée entre quatre murs, dans je ne sais quelles conditions. Donc clairement, ma réponse est non, je ne pense pas être capable de penser comme lui.
Et moi j'aimerais bien, mais la réalité c'est que on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas été dans la même situation. Hein.
C'est vrai.
Mais je pense que si Paul s'est retrouvé en prison, et que ça a d'abord dû être vraiment décevant hein, et difficile pour lui... C'est certainement que Dieu connaissait tout son potentiel et savait tout ce qu'il était capable d'y faire pour sa gloire. Et je trouve ça personnellement très encourageant.
Comme tout le monde, dans ma vie, j'ai eu des hauts et des bas. Et ma vision des problèmes a vraiment changé avec le temps. Il y a clairement un avant et un après. Avant, quand j'avais un problème, je me confiais à Dieu en lui demandant de me donner ce dont j'avais besoin. Et bien sûr, je savais exactement ce dont j'avais besoin, bien sûr. Je voulais voir mon problème résolu et donc je disais à Dieu ce dont j'avais besoin qu'il fasse pour moi. Je ne pense pas que c'est mal de raconter à Dieu ce que nous ressentons, ce que nous pensons avoir besoin, au contraire. Mais en lisant la Bible et en écoutant des témoignages, en m'appuyant sur ces textes de la lettre de Philippiens, j'ai compris que Dieu me connaît mieux que personne Il sait exactement ce dont j'ai besoin, mieux que moi-même. Et pour cette raison, maintenant, j'essaye de faire face aux obstacles avec Dieu. Je me confie à lui. Je lui confie mes souhaits, mes désirs, mes soucis. Mais je dépose tout entre ses mains et je lui demande de me guider. Et c'est ce qui signifie pour moi rentrer dans les projets de Dieu. C'est pour moi une collaboration entre Dieu et moi. Je me mets à disposition et Dieu, me connaissant très très bien, guidera ma vie. J'ai pris donc l'habitude de prier pour que Dieu ferme les portes et les fenêtres qui doivent être fermées, même si ce sont ces portes et ces fenêtres que je veux tant qu'elles s'ouvrent pour moi. Car je sais que Dieu me connaît mieux que moi-même et que de toute façon, il a le gouvernail entre ses mains. Quoi qu'il arrive, je serai bénie. Et je pense que c'est là pour moi le début de la joie, cette joie qu'on retrouve en Jésus-Christ et cette paix aussi qui nous inonde quand on vit cela avec Dieu. Bien sûr, cette foi sera éprouvée un jour lors peut-être d'une difficulté et c'est pour cela que Paul m'inspire et je souhaite vraiment de tout mon cœur vivre la joie et la paix même quand les soucis sont présents, même quand je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, car en tout cas je suis convaincue à 100% que quand nous mettons Dieu dans notre vie présente, quand nous mettons notre avenir entre les mains de Dieu, il va conduire, il va nous donner la force, le discernement, la sagesse, tout ce dont nous allons avoir besoin, nous serons bénis. Et parfois, voire souvent, cela a déjà été dit, Dieu se surpasse et ouvre ses portes inattendues, mais qui au bout du compte ont été vraiment merveilleusement placées. Alors oui, aujourd'hui, je ne veux plus dire « Dieu, voilà ce que tu dois faire pour moi », mais je veux plutôt dire « Dieu, guide-moi, car tu es mon créateur, tu me connais. Tu sais ce dont j'ai besoin. » Ou alors, dans les temps difficiles, j'espère et je souhaite dire, comme Paul l'a dit, « Quoi qu'il m'arrive, Seigneur, rends-moi forte. » Et je partage avec vous un autre verset biblique du psaume 139, versets 1 à 6, qui résume bien à ce que je ressens. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi. Tu es aussi devant moi. Tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Et plus loin, dans les versets 23 à 24, « Oh Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. »
Je t'invite à prier avec les paroles d'un cantique célèbre. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Amen.
Amen. Amen. C'est bientôt la fin du culte, mais avant de nous séparer, je t'invite à la mise en pratique. Nous venons tous de témoigner avec authenticité et sans chichi de ces projets que Dieu a voulu vivre avec nous. quand j'ai préparé mon témoignage, alors je ne sais pas vous les filles, mais c'est un petit peu comme si je m'exposais. Et on se dit que notre témoignage sera un peu bateau, pas fou, pas extraordinaire. Puis après, il y a le lâcher prise du « Allez, c'est bon, je témoigne ». Eh bien, j'ai envie de te dire à ton tour, je t'invite à témoigner concrètement de ce que Dieu a fait ou va faire dans ta vie à quelqu'un proche de toi. Ça peut être un collègue, un ami, un frère, bref, quelqu'un de ton entourage, quelqu'un avec qui tu aimes bien parler. Alors, pas de panique, hein, je te demande pas d'aller lui téléphoner ce soir, hein, mais c'est plutôt l'idée d'être prêt à être au moment voulu. Et si tu ne sais pas à quel est le moment voulu, hein, tu peux toujours demander à Dieu intérieurement. Peut-être que cela va te demander du temps de réflexion au début, un temps d'introspection, peut-être que cela te mènera vers un bilan, mais ce n'est que bénéfique. Mets-toi dans un endroit confortable, pense à ta relation avec lui. Une situation qui t'a peut-être encouragé, redonné des forces. Une situation où tu as pu exprimer ta tristesse peut-être ou ta colère, pense au projet qu'il réalise avec toi. Et puis si tu as envie, appuie-toi sur un ou plusieurs versets qui te parlent, qui te touchent. Attention, ce n'est pas un témoignage figé, rédigé, structuré que je te demande, mais un témoignage vivant qui, quand tu te sentiras poussé, sera un témoignage authentique pour la personne qui la recevra.
Merci beaucoup, Brian. Merci vraiment à vous tous d'avoir partagé avec nous vos expériences personnelles, ce qui n'est pas toujours facile, comme tu disais. Je suis en tout cas, personnellement, je suis vraiment boostée pour la semaine. Merci beaucoup.
Moi aussi.
Et puis, je te remercie aussi à toi qui nous écoutes. J'espère que tu as senti que Dieu t'aime profondément et qu'il t'invite à marcher avec lui dans une entière collaboration. Que Dieu te garde. Bye bye.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.